Bon, donc nous reprenons cet après-midi alors avec dans une espèce de continuité de ce qu'on a pu entendre ce matin. Oui, Christophe Evans va bien nous parler des librairies et pas des bibliothèques de plage. Les librairies, comme les bibliothèques, sont des lieux singuliers. Voilà, et donc je trouve que cette présentation, cette étude qu'il va nous présenter, qui avait été présentée en avant-première aux Rencontres nationales de la librairie de Lyon en 2011, me semble-t-il, et justement nous donne à réfléchir sur ce que peuvent être nos lieux. Donc Christophe Evans, tout le monde connaît, je rappelle quand même que c'est le lieutenant-colonel chef du département du bureau études et recherches de la Bibliothèque publique d'information. Ensuite, nous passerons à des choses qui sont, qui nous posent un peu plus de questions, puisque nous évoquerons les décrocheurs en bibliothèque avant de parler de la crise. Christophe, c'est à toi.
Merci Thierry. Alors c'est amusant parce que ce matin, il a déjà été un peu question des librairies alors que Brigitte nous parlait des bibliothèques. Et là, à l'inverse, cet après-midi, vous allez voir, il sera un peu question des bibliothèques alors que nous allons parler des librairies. Je vais commencer par, une anecdote. Ce n'est pas tout à fait une anecdote, c'est plutôt le fruit d'un petit travail d'analyse qui avait été proposé par Jérôme Lindon, PDG des éditions de Minuit pendant plus de 50 ans, au milieu des années 80. Et donc il avait publié cette, vous allez voir, c'est une sorte d'analyse commerciale au milieu des années 80, dans un article qui était paru dans le journal Le Monde, je crois, et qui devait s'intituler « Il y a libraire et libraire », tout un programme. Cette petite analyse portait sur le succès commercial du premier roman de Jean-Philippe Toussaint, La salle de bain, donc qui était paru en 85, hein, je vous le rappelle. Et il avait, à travers ce succès commercial, pu faire un petit travail d'analyse commerciale sur le poids spécifique de ce qu'il appelait à l'époque la librairie traditionnelle et que moi j'appellerais la librairie indépendante par rapport aux autres circuits de vente du livre. Je rappelle que quand La salle de bain est parue au 1er septembre 1985, personne ne connaissait, à peine, hein, si ce n'est son voisin de palier et sa femme et ses enfants, personne ne connaissait Jean-Philippe Toussaint. C'était son premier livre, alors édité chez Minuit, cela dit, hein, c'est un enrobage quand même qui a beaucoup de sens, hein, bien évidemment, notamment pour les libraires. Après une petite mise en place, on va le voir, d'environ 2000 exemplaires, 8 mois plus tard, le livre s'est vendu à 50 000 exemplaires. Et donc ça a permis à Jérôme Lindon de travailler sur cet arc de réussite et de voir quel était le rôle de la librairie traditionnelle par rapport aux grandes surfaces culturelles spécialisées, par rapport à la FNAC en particulier. Alors dans ce parcours donc de réussite de la salle de bain de Toussaint, il distinguait trois phases qu'on connaît bien en librairie, hein, une phase de mise en place qu'on appelle également l'office, hein, chez les libraires, une phase de lancement et une phase d'exploitation. Au cours de la phase de mise en place, on s'aperçoit assez vite que sur les environ 2000 exemplaires qui sont commandés donc initialement par les libraires, hein, qui ne connaissent pas l'auteur non plus, sauf ceux qui ont eu l'occasion de lire le livre avant parution, mais c'est quand même assez rare, en tout cas pour le livre de Toussaint à l'époque, la FNAC ne représente que 6% des mises en place. L'essentiel des mises en place est assuré par le réseau de librairies traditionnelles. Au cours de la phase de lancement, ce que Lindon appelle la phase de lancement, on s'aperçoit que le rôle de la librairie traditionnelle est encore une fois très important et que dans certains contextes, à Metz par exemple, la petite librairie Géronimo que connaissent bien ceux qui aiment les livres et qui fréquentent les librairies, vend plus d'ouvrages, plus exactement, que la FNAC Metz. Et les choses s'inversent dans cette phase que Lindon appelle la phase de lancement, puisqu'à ce moment-là, effectivement, Lindon disait lui-même, une fois que le travail est fait, d'une certaine façon, le poids commercial de la FNAC en surface de vente, en capacité d'achat, de mise en espace du livre, devient très, très important, et c'est dans ce circuit que l'essentiel des ventes est réalisé. Ça permettait à Lindon de distinguer deux choses, et j'aurai l'occasion d'y revenir ici au cours de ma présentation. Ce qu'il appelle de façon très, très imagée et très pertinente la création du son, et ce qu'il appelle ensuite la question de l'amplification du son. Et il montre bien à travers l'analyse des données commerciales qu'il peut lui exploiter à travers les comptes de sa maison d'édition, que la librairie traditionnelle, sous-entendu la librairie indépendante, a un rôle, en tout cas pour un ouvrage comme La Salle de Bain, c'est-à-dire qui est publié par un jeune auteur qui n'est pas connu encore des lecteurs et encore moins des critiques, a un rôle extrêmement important. Et qu'à l'inverse, pour tout ce qui relève de la question de l'exploitation, donc de l'amplification du son, là, effectivement, l'ensemble des circuits de vente a son rôle à jouer, et en particulier les grandes surfaces spécialisées. Voilà. Cette notion de création du son, cette spécificité de la librairie indépendante, c'est ce qu'on a voulu placer au cœur d'un dispositif d'enquête pour essayer de voir aussi du côté des publics, du côté des usagers, comment la librairie, le circuit de librairie indépendante est perçu, quel rôle joue la librairie indépendante, et également du côté du territoire aussi. Donc c'est la raison pour laquelle on m'a proposé de faire cette intervention donc, dans le cadre de cette journée d'études. Ce qui nous a, nous, amené à nous intéresser au service études et recherches de la BPI à cet objet donc, de la librairie indépendante, alors qu'on a plutôt pour réputation de travailler sur les institutions publiques du livre, les bibliothèques en particulier, c'est justement le manque d'études, le manque de données sur les librairies indépendantes et en particulier sur les comportements des usagers, là pour le coup on va parler de clients, sur le comportement des clients, les attentes des clients et surtout les représentations des clients dans l'utilisation de ce circuit d'approvisionnement en livres et dans la fréquentation de ces espaces et de ces territoires du livre. On dispose d'un certain nombre de données économiques, c'est même assez fréquent, puisqu'on s'intéresse de près quand même à ce qu'on appelle le maillon faible, le maillon le plus fragile de la chaîne du livre, les librairies indépendantes. Mais en fait, il y a un manque, et il s'agit là aussi d'un maillon faible, il y a un manque d'études, et en particulier d'études qualitatives qui portent sur les usagers. À ma connaissance, d'ailleurs, les seuls travaux récents dont on puisse disposer dans ce domaine, en tout cas qui ont été rendus publics, c'était l'enquête de Pierre Cohen-Adria qui avait été réalisée pour le Motif sur des librairies indépendantes de Paris et de l'Est parisien en particulier. Voilà, mais sinon, très, très, très peu de données. Donc l'idée pour nous, c'était justement d'essayer de voir aussi comment... quelle place la librairie trouvait aujourd'hui dans ce circuit d'approvisionnement en livres? Est-ce qu'elle faisait partie aussi d'une manière ou d'une autre de ce qu'on appelle aujourd'hui la lecture publique? C'était d'autant plus intéressant à explorer que, vous le savez, les pratiques de lecture ont considérablement changé. On va plutôt vers ce que l'AIR donc appelle une baisse d'intensité dans la foi artistique et littéraire. Les pratiques d'approvisionnement changent, en particulier avec la vente en ligne, en particulier avec les pratiques d'approvisionnement via Amazon, pour ne pas citer ce grand géant de la distribution du livre. Et donc, il nous paraissait intéressant de voir comment aujourd'hui les lecteurs s'emparaient ou pas des librairies quand on les interrogeait sur place, via une étude qualitative. C'est donc un travail d'enquête qui a été confié à un petit bureau d'études qui s'appelle SEA, sociologue et anthropologue associé. Et le travail de terrain a été réalisé par Sonia Kellenberger et Fabrice Raffin. C'est une enquête qui a été réalisée au cours de l'année 2007-2008 avec quelques entretiens complémentaires qui ont été réalisés en 2009. Et le rapport a été publié en 2011. Ça fait un certain temps déjà, il faudra que je m'explique sur cette temporalité. Il est accessible en ligne gratuitement sur le site des éditions de la BPI. Je vous donnerai l'adresse tout à l'heure. Voilà pour présenter donc cette étude. Je vais revenir sur la problématique des deux chercheurs, hein, sur le périmètre qu'ils ont dessiné autour de cette étude. Je vais vous présenter de manière assez détaillée les terrains, en essayant de vous faire profiter d'un certain nombre de visuels qui vous mettront au cœur même du dispositif. On a vu que c'était assez signifiant avec les bibliothèques de plage. On va voir que c'est tout aussi signifiant en ce qui concerne les librairies. Et ça me permettra d'ailleurs déjà d'amorcer un certain nombre de constats tirés de cette étude à travers les diapos que je vous présenterai. Alors, la problématique donc de Sonia Kellenberger et de Fabrice Raffin consistait à s'intéresser à la façon dont les librairies territorialisent le culturel dans l'espace urbain. Comment les librairies s'inscrivent dans un territoire urbain, ce qu'elles reçoivent de ce territoire et ce qu'elles produisent sur ce territoire. Donc il y a un double travail, hein, et on verra que on peut dire tout un tas de choses autour de ces questions, notamment à la faveur de cette fréquentation des clients des librairies. Kellenberger et Raffin proposent un modèle d'analyse qui dépasse la question simplement du commercial ou du culturel. Hein. On dit souvent que la librairie est un commerce pas comme les autres, ce qui est tout à fait justifié parce que c'est un commerce à dimension culturelle, plus ou moins forte, on le verra. Et c'est un commerce aussi dont la rentabilité est extrêmement faible. Hein. C'est sans doute, quand on fait des ratios mètres carrés par rapport aux surfaces commerciales, ce qu'il y a de plus micro, mini, réduit. Hein. Quand on dit que le métier de libraire est un métier d'engagement personnel, c'est certainement pas un métier qui permet des réussites économiques très fortes. Hein. Devenir opticien, c'est beaucoup plus rentable. Mais on va voir que le poids symbolique, et en particulier le poids territorial symbolique des librairies, est considérable. Et ça, cette étude le montre assez bien. Donc si on dépasse le registre du commercial et du culturel, on accède à une dimension que Sonia Kellenberger et Fabrice Raffin proposent d'appeler la question du lieu-projet. Je vais expliciter. Et qui renvoie notamment à l'activité d'individus qui sont initiateurs d'un lieu-projet, qui créent ce lieu, qui le gèrent et qui le font évoluer. Donc on va voir aussi que, et ça c'est le troisième point, la question de la personnalisation de ce lieu-projet est considérable, et qu'elle est particulièrement forte, beaucoup plus forte que ce qu'on va pouvoir trouver éventuellement dans les bibliothèques, beaucoup plus forte également que ce qu'on va pouvoir trouver dans des grandes surfaces culturelles spécialisées, où on peut aussi parfois avoir un lieu-projet. La FNAC a un projet, hein. Je vous rappelle les slogans, hein, qui se sont succédés les uns aux autres, mais on va voir que cette question de la personnalisation est sans doute moins forte, hein, si on compare la librairie indépendante avec la FNAC. Et on verra aussi, ça j'essaierai de le montrer, que dans l'inscription du territoire, il y a quelque chose de fondamental et de primordial. Et là, la différence avec les bibliothèques est intéressante aussi. C'est la question de l'interface entre le dedans et le dehors, entre la rue et l'intérieur. Et là, pour le coup, il y a un enjeu capital avec la question des vitrines, bien évidemment. Et ça, cette question des vitrines, on ne va pas la trouver dans les grandes surfaces culturelles spécialisées. La FNAC a toujours des aménagements standards et il y a une certaine opacité entre le dedans et le dehors. Avec les librairies indépendantes dont on va parler, on va voir que cette question de l'interface est particulièrement forte. La méthode de... je surveille quand même un peu. La méthode donc utilisée par les deux chercheurs sur le terrain, c'était d'abord et avant tout un peu comme Brigitte Groslot le montrait ce matin. Hein. Donc d'abord un travail d'immersion, un travail d'observation, une observation dans un premier temps tout à fait exploratoire, et puis après une observation plus systématisée. Hein. Sonia Kellenberger, par exemple, a emballé pendant la période des fêtes à Montreuil, à Folie d'Encre, a fait des paquets cadeaux, hein, tout simplement, pour observer ce qui se passait. Donc, observation participante non déclarée. Et puis, elle a fait des entretiens approfondis sur un certain nombre de terrains que je vais vous présenter rapidement. Environ 25 entretiens par librairie, ce qui sous-entendait des entretiens avec les responsables, les gérants, éventuellement une partie de l'équipe, et surtout les clients. Hein, donc on n'appellera pas usagers pour le coup, mais plutôt les clients. Alors les terrains, il s'agit donc de 5 librairies, en fait 3 d'ailleurs plus particulièrement, donc sur 4 territoires, mais là je vais plus particulièrement vous présenter 3 territoires, et je vais essayer de vous présenter rapidement les projets hein, qui sont à l'origine de la création de ces différentes librairies. J'ai jusqu'à 15h, hein, c'est ça. Non, jusqu'à 14h45. Alors, on retrouve la Galerne, dont Brigitte a déjà parlé, donc la grande librairie du Havre. Donc, on est là aussi sur... sur une métropole assez importante. Quand je dis grande librairie, 1300 m², 75 000 références, 33 personnes. Il s'agit véritablement d'un espace commercial assez imposant, assez important. Créé en 1982, avec de la part de ses créateurs une ambition culturelle affichée. Donc, une grande librairie de référence, à l'origine plutôt littéraire, beaux-arts et sciences humaines, pour une grande métropole qui, au début des années 80, n'était pas fortement dotée. En ce qui concerne l'emplacement de la Galerne, vous le voyez avec le petit point qui est figuré sur le plan, si c'est lisible pour vous, je ne sais pas, à cette hauteur-là, peut-être pas évident. Nous sommes en centre-ville, hein, donc à proximité du quai Georges V. À gauche, vous avez le littoral. Hein, vous entendez les mouettes et le bruit de la mer, là aussi. On est vraiment donc installé en centre-ville avec une librairie qui donne sur deux rues. Et ce qu'on voit peut-être plus difficilement sur la deuxième diapo du bas, c'est le fait qu'une partie des vitrines sont recouvertes par une résille de textes. Donc on a là aussi, d'une certaine façon, l'affirmation du projet à travers cette résille. Alors, d'autres visuels qui nous permettent justement d'apprécier quelque chose qui sera très important dans cette définition des librairies indépendantes, de leur ambiance, de leur atmosphère et de leur aménagement. C'est la question des endroits qui sont réservés aux espaces de lecture, et là, en l'occurrence, les canapés. Plutôt confortable. Sur la première diapo, on voit donc le quai Clémenceau dont je parlais tout à l'heure, un espace jeunesse en bas à gauche avec donc des possibilités de lecture avec les enfants qui sont manifestement fort appréciées. Une grande librairie hein, avec un espace de déambulation particulièrement agréable et facile. Brigitte, je crois, signalait qu'à la Galerne, on trouve un café. Effectivement, on a cet espace café dans cette grande librairie et un point de restauration également. Hein, donc c'est un espace culturel au sens fort du terme avec une programmation culturelle intense, beaucoup de rencontres, des expositions, un prix littéraire, le prix des embouquineurs et une inscription dans la ville particulièrement forte. Voilà. Alors, la Galerne, pour mémoire, c'est un vent humide et froid, mais on verra que ce n'est pas ce qui souffle dans cet établissement. Deuxième établissement principal enquêté dans le cadre de cette enquête, donc à proximité d'ici, hein, la librairie Folie d'Encre à Montreuil, avec un espace plus modeste, mais quand même assez important, de 300 m², 30 000 références, 11 personnes, créée elle aussi en 1981 par un personnage haut en couleur qui, comme le fondateur de la Galerne, jouera un rôle important au syndicat de la librairie française. C'est important à signaler, hein, puisque la notoriété de leurs établissements, d'une certaine façon, a aussi à voir avec l'engagement des créateurs et fondateurs. Là aussi, on est dans une installation en centre-ville. On est plutôt dans une centralité commerciale à Montreuil, puisqu'on est à Croix-de-Chavaux, pour ceux qui connaissent, en métro Croix-de-Chavaux, alors que le centre historique est plutôt du côté de Mairie de Montreuil. en cours de revitalisation d'ailleurs aujourd'hui. Croix-de-Chavaux, cela dit, est stratégique. C'est un centre commercial dans lequel vous avez un monoprix qui attire beaucoup de Montreuillois. Et nous sommes en limite d'un espace symbolique fort à Montreuil, puisque sous la rue de Paris, vous avez ce qu'on appelle le Bas-Montreuil, qui est l'espace, pour dire les choses très vite, de façon un peu brutale, hyper boboisé de Montreuil. Donc vous avez Paris à gauche, vous avez vraiment la banlieue nord qui commence au-dessus, mais là on est dans un entre-deux assez intéressant, avec un engagement culturel fort pour la ville. Pour mémoire, mais j'aurai l'occasion d'y revenir, quand Jean-Marie Ozanne crée sa librairie à Montreuil au début des années 80, il se fait, paraît-il, moquer par un certain nombre de représentants, voire d'éditeurs, avec notamment des éditeurs qui lui diront « mais on lit à Montreuil ?» Aucune librairie, alors qu'il s'agit d'une ville de près de 100 000 habitants à l'époque. Et donc, Ozanne, à la différence de Gilles Delaporte qui a créé la Galerne au Havre, va créer cette librairie, comme il le dit, une librairie de cons pour cons, avec l'idée d'inscrire les mauvais genres haut et fort dans sa librairie, le polar, la bande dessinée, les littératures locales, l'histoire locale également, plus tout ce qui concerne l'engagement politique aussi. Voilà, donc c'est autant le projet de la Galerne est un projet culturel au sens fort du terme, voire au sens classique du terme. Là, on est plutôt sur un projet qui a une très belle réussite, qui est plutôt un projet militant ou contre-culturel par certains côtés. Je précise que Folie d'encre aujourd'hui, c'est un réseau de librairies, puisque vous avez d'autres Folies d'encre à Saint-Denis, à Gagny, à Aulnay. Je vais sans doute en oublier, enfin bref. Mais il ne s'agit pas d'une chaîne, il s'agit bien d'un réseau. C'est-à-dire qu'elles ont toutes leur indépendance. Troisième, avant de parler du troisième terrain, quelques visuels quand même de Montreuil, pour essayer de vous donner aussi, ce qui est très difficile à travers des photos, un peu une idée de l'ambiance dans la librairie. On y reviendra d'ailleurs, puisque là aussi c'est un lieu animé, particulièrement animé, avec aussi un travail sur les vitrines, sur les manifestations culturelles. La semaine dernière, il y avait Georges Pelecanos, par exemple, à Montreuil, pour ceux qui connaissent, auteur de romans policiers, co-scénariste et coproducteur de la série The Wire. Voilà, faire venir Pelecanos à Montreuil, c'est pas rien. Et ça, Folie d'encre le fait très bien. On voit l'espace jeunesse en bas à gauche, qui est à l'étage supérieur de la librairie, avec du coup des usagers qui viennent pour à la fois palabrer, se retrouver autour des achats qu'on va pouvoir faire pour les enfants. Et puis on voit aussi dans la diapo de droite en bas, en noir et blanc, qui a un mélange, et ça c'est important, c'est constitutif aussi de l'ADN parfois des librairies indépendantes, entre du mobilier un peu plus standardisé, un peu moderne, et puis un mobilier qui échappe justement au catalogue standardisé des fournisseurs de matériel pour les librairies ou pour les bibliothèques. Et on verra que c'est quelque chose de particulièrement apprécié également des clients. Troisième terrain, choisi par les chercheurs, avec le comité de pilotage, mais d'abord sur proposition des chercheurs, c'est l'atelier 9 dans le 9e arrondissement de Paris, rue des Martyrs précisément. Donc pas n'importe quel endroit non plus, dans un quartier de Paris qui a lui aussi vécu une transformation assez importante. L'atelier 9 d'ailleurs a pris la place d'une ancienne quincaillerie. C'est dire aussi à quel point ces changements-là sont significatifs. Alors pourquoi l'atelier 9 ? Parce que elle a été fondée par le créateur de l'atelier dans le 20e arrondissement au métro Jourdain. Ceux qui connaissent bien la géographie parisienne doivent connaître cette très bonne librairie. Elle a été ensuite cédée dans un premier temps à un vendeur, puis à un deuxième vendeur de l'atelier qui l'a rebaptisé Atelier 9 pour 9e arrondissement. Vous voyez une photo en bas à gauche de l'intérieur de la librairie. Et là, c'est intéressant parce qu'on n'est pas du tout sur le même registre que la Galerne. On est dans un espace beaucoup plus confiné qui plaît à un certain nombre de clients de librairie. Un peu étriqué, même un peu à l'étroit. Il y a des livres un peu partout. Ça participe aussi du charme de la librairie indépendante. Et nous sommes donc entre le métro Pigalle et le métro Anvers. Tout un programme. Voilà, 100 mètres carrés, 13 500 références, 5 personnes, c'est beaucoup plus modeste. Je n'ai pas de visuel à vous présenter sur les deux autres terrains complémentaires qui étaient plutôt des terrains témoins par certains côtés. Ce sont deux librairies qui ont été observés et enquêtés à Castelsarrasin. Donc là, nous sommes à proximité de Montauban, hein, dans une commune d'environ 12 000 habitants, et qui a la particularité d'avoir en centre-ville deux librairies, hein, pour une ville de 12 000 habitants. Je ne sais pas si elles existent encore, d'ailleurs. Hein. Le terrain a commencé, je vous l'ai dit, en 2006. Il s'est terminé en 2009. Je ne sais pas si elles existent encore, hein, parce qu'elles subissaient de plein fouet la concurrence d'un centre Leclerc qui s'était installé à la périphérie. Et on était là dans un registre de concurrence assez, assez difficile. Mais on était sur des terrains complémentaires assez intéressants, parce que là, on était beaucoup plus sur un certain nombre de librairies qui sont des librairies indépendantes, mais qui relèvent plus du registre de la librairie dans lequel on va trouver des bibelots, des cadeaux, un espace carterie, papeterie très important, voilà, et un nombre de références beaucoup plus limité. Voilà. Mais malgré tout, ce qui est assez intéressant, c'est que dans le cadre de cette enquête, on a des résultats qui vont converger, et on va trouver un petit peu la même chose sur les 5 librairies dont j'ai parlé. Alors, pour avancer un petit peu dans ma présentation, et pour compléter un certain nombre de choses, je vais revenir sur les 6 fonctions dont parlait Brigitte ce matin au cours de son intervention, puisque Sonia Kellenberger et Fabrice Raffin ont proposé une typologie d'usage des librairies qui, vous allez le voir, dépasse les aspects convenus de ce qu'on peut imaginer dans une librairie. Aller dans une librairie pour acheter des livres, hein, ou pour écouter un auteur qui fait ou pas une lecture. Et on verra même d'ailleurs qu'il y en a peut-être une 7e à ajouter. Donc la première fonction, le premier usage le plus convenu, hein, c'est ce qui relève justement des pratiques d'approvisionnement en livres, hein, tout à fait classique. La deuxième, c'est ce qui relève, comme l'avait dit Brigitte, donc de la question de l'expérience du livre. Donc la librairie comme un lieu d'exposition du livre, comme un feuilletoir géant, une sorte de catalogue de livres à ciel ouvert. La troisième fonction, c'est la fonction du cabinet de lecture, un lieu où on lit sur place. La quatrième, donc, c'est la librairie comme lieu de sociabilité. Hein, c'est la fonction sociale au sens le plus fort du terme. Un lieu de socialisation aux livres, aux pratiques de lecture, et un lieu de sociabilité. La cinquième, donc, qui était importante pour les bibliothèques et qui est encore plus importante pour les librairies, c'est la fonction protectrice. Un lieu de passage, de pause ou de repli même. Parfois. La cinquième, donc la fonction de ressourcement culturel. La sixième, la fonction de ressourcement culturel, je m'y perds un peu. Et donc la septième qui sera ajoutée, c'est la fonction symbolique. Alors je vais, pour essayer de rendre un peu vivant mon intervention, vous citer un certain nombre d'extraits d'entretiens pour essayer de voir justement comment elles sont vécues, ces différentes fonctions des librairies. Je passe rapidement sur la fonction d'approvisionnement. Hein. C'est sans doute la plus convenue, c'est la plus courante, la plus classique. Elle est très importante aussi, puisque la fonction d'approvisionnement, elle ne concerne pas que les lecteurs ou les personnes engagées dans la lecture de livres, dans la défense de la littérature ou de tel ou tel genre littéraire. Elle concerne aussi des gens qui sont parfois non lecteurs, mais qui ont besoin d'acheter des livres, et notamment pour faire des cadeaux. Et la librairie est connue pour être, notamment aux périodes de fête, un lieu propice justement à la recherche des cadeaux. Je passe sur cette fonction d'approvisionnement, je passe directement à la fonction d'expérience du livre et d'exposition du livre. Et quelques citations. Donc, pour commencer, un homme de 48 ans qui est interrogé à la Galerne, qui est infirmier psychiatrique. Ce que j'aime vraiment ici, c'est qu'on peut ouvrir et regarder les bouquins. On peut toucher, je dirais presque renifler les livres. Vous voyez, là, on n'est pas sur le virtuel, on est bien sur le réel, sur le physique, sur le matériel. Une femme de 30 ans qui est employée à la RATP et qui est interviewée à Folie d'encre. Pour le plaisir des livres, le plaisir de l'œil, comme une gourmande à la boulangerie, j'adore. Ce n'est pas forcément évident de retrouver la librairie sur ce registre de la gourmandise en pâtisserie. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit que pour certains clients, la librairie, et notamment les librairies de taille modeste, permettent aussi une forme de réduction du choix. Ce qu'on peut trouver d'ailleurs parfois dans certaines bibliothèques, là je passe de la librairie à la bibliothèque dans le nord de l'Europe, où on a des espaces très différenciés, dans des ambiances différentes, qui permettent de mettre en valeur sur des espaces plus réduits une offre documentaire. Et donc cette réduction du choix, je peux vous l'illustrer à travers cette citation d'un homme de 58 ans qui est enseignant-chercheur en sociologie, bizarrement, et qui est interviewé à Folie d'encre et qui dit la chose suivante. Je voulais dire aussi qu'être dans les grandes librairies, ça m'emmerde. On est souvent obligé de demander où sont les choses, c'est toujours un peu délicat, on perd du temps. Et puis pour rien te cacher, ça file le tournis et des complexes. Merde, est-ce que je devrais lire encore? Qu'est-ce que je devrais lire? Donc voilà, la librairie indépendante, de taille réduite, elle vous impose par certains côtés un choix. C'est d'ailleurs souvent un choix qui est orienté par le propriétaire des lieux ou les libraires, et ça trouve son public. La fonction cabinet de lecture, donc un lieu où on lit, un lieu où on amorce des lectures, parce qu'effectivement, le livre a ça de particulier, que c'est un bien d'expérience, hein, nous disent les économistes. Il faut en avoir commencé la lecture pour savoir ce qu'il a dans le corps. Quoi. C'est tout à fait particulier au bien d'expérience. Donc souvent, on amorce des pratiques de lecture dans les librairies, j'allais dire dans les bibliothèques. Dans les librairies, dans les bibliothèques aussi. Et l'enquête a montré que ces amorces allaient parfois un peu plus loin, avec notamment des lecteurs qui, j'allais dire à vous, c'est même pas à vous, mais c'est qui reconnaissent lire in extenso certains livres dans des librairies. C'est plus facile avec les bandes dessinées, c'est plus facile avec les lectures courtes. Et aujourd'hui, les éditeurs proposent de plus en plus de formes courtes. Et un certain nombre de lecteurs interviewés dans le cadre de cette enquête montrent qu'ils vont effectivement lire en librairie, pas seulement en bibliothèque, mais en librairie aussi, voire chercher des informations. Parfois, il y a plusieurs exemples à Folie d'encre de gens qui vont dans le rayon tourisme pour aller chercher des adresses pour leur voyage à l'étranger, qui, pour certains d'entre eux, d'ailleurs, n'ont pas l'idée de le faire à la bibliothèque, ce que je trouve assez intéressant. Donc, des extraits d'entretien. C'est beaucoup mieux maintenant. C'est une femme de 55 ans, psychiatre, décidément, qui est interviewée à l'Atelier 9. C'est beaucoup mieux maintenant. C'est plus attractif, c'est mieux présenté, déco sympathique, dans des lieux chaleureux. On vous laisse lire. On a l'impression qu'on peut lire sans être dérangé, ce qui était autrefois moyennement toléré. J'ai passé une demi-heure sur un bouquin tout à l'heure, on ne m'a rien dit. C'est 10 fois plus chaleureux qu'avant. Avant, ça ressemblait un peu à des bibliothèques. Maintenant, ça ressemble à des lieux d'accueil. Et une personne interviewée à la Galerne, une jeune femme de 22 ans qui est serveuse, et Sonia Kellenberger lui dit « Vous allez à la bibliothèque ?»« Oui, 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 mais je trouve ça trop calme. J'aime bien qu'il y ait du mouvement, que ça vive un peu. La bibliothèque, j'y vais plus pour les études. » Ici, on vient pour notre plaisir. On ne nous impose pas que la bibliothèque, il y a tout de suite ce côté éducation, il faut travailler. La fonction sociale, donc la question du lieu de sociabilité, hein, qui montre aussi que la librairie est un lieu de parole, ce n'est pas non plus un lieu de chuchotement et de recueil, hein, puis c'est aussi un lieu de lecture à voix haute. Hein. Une femme, 47 ans, infirmière de nuit, interviewée à la Galerne. C'est un lieu de rencontre un peu fortuite, c'est vrai. Mais on peut s'y donner rendez-vous, cela m'arrive souvent. Et parfois, sans se donner rendez-vous, on rencontre des gens aussi. C'est une petite ville, mais c'est surtout un lieu stratégique que tout le monde connaît. Il y a très peu de librairies et tout le monde vient ici. Ce qui revient assez régulièrement s'agissant de la Galerne, que certains disent faire visiter à leurs amis et à leur famille le dimanche, parce qu'elle est ouverte le dimanche, comme on visite un haut lieu ou un lieu culturel. Fonction protectrice dont je parlais, hein, donc cette idée de un peu matricielle, hein, de la librairie qui protège du monde, mais qui vous ouvre aussi sur un autre monde. Hein, on n'est pas seulement dans le repli négatif. Une femme de 33 ans, ingénieure territoriale, interviewée à la Galerne. L'invitation à s'installer, à se poser, on a le temps, ça revient souvent, hein, on a le temps, on nous laisse le temps. Ce qui fait de la librairie un commerce tout à fait particulier. C'est convivial, c'est pas le royaume du « tu payes, tu sors ». À la Galerne, la femme de 33 ans, ingénieure territoriale, pardon, dont j'ai déjà parlé, c'est un peu un poumon, une porte sur le reste du monde. Une femme de 32 ans, qui est en doctorat à l'Atelier 9. Les librairies, ça ouvre l'horizon, ça enrichit ta vie, ça t'amène hors de ta vie. C'est aussi un réservoir où tu peux un peu t'échapper de la réalité et aussi rentrer en contact avec certains aspects de la réalité. Et enfin, une lycéenne de 16 ans à la Galerne. La librairie, c'est un endroit de culture assez relaxant, l'ambiance est calme et avoir des livres partout, c'est relaxant. J'ai l'impression d'être coupé du monde, car quand je viens ici, je reste pas mal de temps. Je suis toujours lente quand je choisis quelque chose. J'aime bien prendre mon temps, comme dans une bulle. la fonction de ressourcement culturel, enfin. Plusieurs entretiens montrent qu'on peut fréquenter les librairies sans passer par la caisse, tout simplement pour aller humer un petit peu les nouveautés éditoriales, se donner même parfois le sentiment de faire une programme culturel sans se déplacer dans un lieu culturel au sens fort du terme, un musée, une salle d'exposition ou autre encore. Le tout dans une ambiance chaleureuse et, encore une fois, dans une... comment dire, une organisation de l'espace non standardisée et des propositions qui sont tout à fait personnalisées. Et donc, une citation. Que représente pour vous une librairie pour votre ville ou pour votre quartier ? Ah, une personne interrogée à l'atelier 9. C'est une richesse culturelle. Ça me fait de bien de me dire qu'il y a des gens qui ne passent pas leur vie devant la télé, avec une finalité un peu moins mercantile. Vente de la bouffe et surtout des habits. Et justement, la culture me semble être une alternative aux habits. L'alternative à la consommation pure et dure, c'est ça. À Folie d'encre, un homme de 30 ans qui fait du cinéma documentaire. J'adore cet endroit. Le fait qu'il y ait plusieurs étages, le fait que ce soit un peu le bordel, ça me va bien. Je ne me sens pas du tout oppressé. Il y a de la place, pardon. Il y a beaucoup de jours, beaucoup de lumière. Voilà. Dernier point, donc la question du j'allais dire de la fonction symbolique, là qui relèverait plus d'un certain nombre d'usages militants, de fréquentation tout à fait militante, voire politique de la librairie, avec un grand nombre de personnes interrogées qui vont dire « Je viens ici pour soutenir le libraire de ma ville, le libraire de mon quartier. Ça participe pour moi à la défense d'un certain nombre de petits métiers qui tendent à disparaître et d'intermédiaires culturels qui ont tout à fait leur place. » Avec un petit bémol, les mêmes diront « Mais quand j'ai besoin d'un livre tout à fait précis, machin chose, je vais sur Amazon ou j'achète sur Fnac.com. » Avec à la marge aussi, mais certains l'auront reconnu volontiers, et certains libraires s'en plaignent beaucoup aujourd'hui, de plus en plus, tu pourras confirmer Thierry, des personnes qui disent « je viens les voir ici et je les achète ensuite en ligne », ce qui est assez quand même violent. Voilà. Au terme de ce balayage assez rapide, on voit à travers cette enquête, à travers les entretiens qui ont été réalisés, même s'il ne s'agit que de propos déclaratifs, qu'il faudrait aussi parfois évaluer avec un petit peu de distance, avec un peu de distance critique, que la librairie indépendante, la librairie traditionnelle, donne du relief à la ville, qu'elle inscrit notamment le culturel dans le territoire. Pas seulement la vente du livre, mais également la présence du livre, les manifestations autour du livre et tout un imaginaire aussi livresque, un imaginaire de lecteur qui a une importance très forte. Elle l'inscrit dans un espace, mais elle l'inscrit aussi dans la temporalité des villes. L'enquête à plusieurs reprises montre également que la question des vitrines, comme je le disais tout à l'heure, est décisive. Elles sont véritablement des interfaces très fortes entre le dedans et le dehors. Elles permettent de rendre visible le livre et l'actualité éditoriale sur un territoire donné, pour les lecteurs et pour les non-lecteurs. Et donc, ça participe du travail de socialisation et d'ancrage du livre dans une ville et dans un territoire donné. Je vous invite d'ailleurs, je voulais le faire, je n'ai pas le temps, sauf si on me laisse une minute ou deux, à aller voir le site web de la librairie L'Atelier Neuf et le traitement des vitrines pour cette librairie. Je n'en donne que deux exemples. Là, il y a un libraire qui a fait une école d'art et qui propose quatre vitrines annuelles qui sont toutes plus riches les unes que les autres. Et croyez-moi que tout le monde s'arrête devant les vitrines de l'Atelier Neuf, même si tout le monde ne rentre pas dans la librairie. Mais il y a un travail de mise en scène du livre et de mise en espace et d'actualisation du livre qui est assez engagé, assez intéressant. Donc l'enquête montre que la librairie indépendante, beaucoup plus que les grandes surfaces culturelles spécialisées, a fortiori que les grandes surfaces alimentaires, mais plus que les bibliothèques aussi, est celle qui sans doute présente le plus le livre dans la ville et dans l'espace quotidien. L'enquête montre également, je vais très vite, mais je vous renvoie à la synthèse, qu'à travers leur parcours dans la ville, parce que ces librairies créées pour Folie d'encre, par exemple, et La Galerne au début des années 80, auront changé de lieu. Elles grandissent, elles grossissent, et donc souvent elles se déplacent dans la ville. Elles suivent aussi les mobilités commerciales. Folie d'encre, pour ceux qui connaissent, a commencé dans une ancienne maroquinerie qui faisait à peine 40 mètres carrés, dans une petite rue piétonne qui aujourd'hui est complètement désaffectée. Folie d'encre a participé à l'origine à la qualification de ce territoire urbain. En s'en allant et en allant vers d'autres centralités urbaines et commerciales, Folie d'encre a participé à la déqualification de cette rue commerciale qui est aujourd'hui complètement en déshérence à Montreuil. Et on trouve un peu la même chose, le même parcours pour la Galerne, qui au début des années 80 s'installe à proximité du volcan, donc dans l'espace Niemeyer, donc la maison de la culture du Havre, hein, qui culturellement et politiquement est quelque chose de très fort. Et la Galerne va se déplacer aussi à mesure qu'elle va grandir. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on a dans la mémoire des clients et des usagers tout ce vécu aussi urbain et territorial, et cette compréhension du fait que quand la librairie est partie, l'espace a changé et qu'il s'est partiellement déqualifié. Et pour terminer, donc l'enquête montre aussi, et ça rend la librairie tout à fait singulière, spécifique, importante, mais il faudrait que je puisse m'adresser là plutôt à des élus à la culture qui pourraient avoir le projet d'essayer de soutenir les librairies sur leur territoire ou de favoriser l'implantation de librairies sur leur territoire. Pour les personnes interrogées, la librairie s'inscrit dans une forme de normalité culturelle, une forme de normalité urbaine, puisque la librairie ressemble à un certain nombre d'autres commerces. Elle est à proximité d'autres commerces. Folie d'encre, par exemple, à Montreuil, est dans un espace commercial fort, installé à côté du Monoprix ou de commerces de bouche traditionnels, boulangerie, poissonnerie, fromagerie, et ainsi de suite. Mais surtout, il y a cette forme de normalité culturelle très forte, c'est-à-dire que pour ceux qui acceptent ou se sentent suffisamment confortés dans l'idée de passer le seuil, le ticket d'entrée dans la librairie est relativement faible par rapport au musée dont je parlais tout à l'heure, par rapport au théâtre, par rapport à des lieux culturels beaucoup plus prestigieux. Je ne sais pas si on pourrait la mettre sur le même plan que la bibliothèque. On a vu qu'il y avait un aspect aussi dynamique qui parfois jouait dans la balance. Mais il y a cette idée quand même que si la bibliothèque n'est pas un commerce comme les autres, qu'elle a une dimension culturelle, sa dimension culturelle, la place à un niveau relativement accessible et abordable, ce qui lui donne un rôle tout à fait important, et évidemment. Je terminerai peut-être par des citations encore qui témoignent pour le coup sur les trois librairies principales de ce qu'on pourrait appeler une forme de fierté municipale par certains côtés, hein, ou de disposer d'une librairie dans sa ville ou dans son quartier, et du coup d'en faire un peu une défense symbolique. Première personne donc interrogée à Folie d'encre à Montreuil. Sans en faire un détail, je crois que c'est important d'avoir une librairie dans une ville comme Montreuil, qui se targue d'être quand même une banlieue pas trop pourrie, où il y a un truc culturel, où il y a une densité de troupes de théâtre, par exemple, qui est énorme. Je confirme, hein, j'habite Montreuil, c'est étonnant. Je pense qu'il y a quelques années encore, on comptait plus d'une trentaine. Ça nécessiterait un long discours et de l'argumenter, mais par exemple, à Saint-Denis, ils sont tout de même pas une banlieue au sens déshérité, repliée. Je crois que c'est important. Il y a aussi un Folie d'encre à Saint-Denis. Je crois que ça constitue tout de même, je vais dire une banalité affreuse, ça contribue peut-être à faire une ville, une librairie. La librairie fait la ville. Une autre citation. La Galerne. C'est très important. S'il n'y en avait pas, ça me manquerait vraiment beaucoup. Pour la ville même, je dirais que c'est essentiel. J'ai déjà passé des vacances dans des villes où il n'y avait aucune librairie. Et il y a un manque au niveau de culture générale. Avec les gens, c'est flagrant. Ça m'est déjà arrivé de tourner pour chercher un truc à lire et d'avoir des difficultés à trouver ça. Et pour moi, ce n'était pas évident à vivre. Voilà un qui n'a pas trouvé le chemin des bibliothèques de plage. Et pour terminer, une ville qui a une très bonne librairie, c'est important. C'est une ville qui sait faire une ville qui sait faire attention à ses libraires, à ses librairies. C'est une ville où les gens ont une façon de réfléchir, ne se contentent pas certainement d'être dans la consommation de marché. Voilà, je m'arrête là.
Oui, et donc Christophe, en fait, tu as parlé de la galère Noavre et du discours municipal, et je me demande, pour avoir lu plusieurs fois, au moins deux fois, une interview du maire du Havre, qui est toujours maire du Havre, qui revendique au fond sa librairie tout autant que sa bibliothèque comme politique de lecture. Et je trouve que d'une certaine façon, ça rejoint le propos que tu tiens sur la fierté municipale. Il me semble que, en effet, peut-être qu'on commence à avoir des discours d'élus qui ne sont plus seulement la librairie, c'est, comme on a eu, hein, c'est le fournisseur qui va avoir, le cas échéant, l'appel d'offres municipal, etc. Et juste une petite question qui doit sans doute, à mon avis, avoir un lien avec la sociabilité, qui est la question de l'accueil. Parce que, en fait, tu as fait des lapsus, tu as parlé de librairie, bibliothèque, et souvent, tu es passé de l'une à l'autre. Et je me demande si cette question de l'accueil n'est pas aussi extrêmement prépondérante dans la librairie.
Si, et d'ailleurs, ça, c'est vrai, tout à fait juste. Et ça vient assez souvent dans les propos des personnes interviewées qui témoignent en fait d'une proximité très forte, pour certains d'entre eux, pas tous, avec les libraires et avec les gérants des librairies. Et donc, il y a très souvent, effectivement, des propos où on va parler de mon libraire, les conseils de mon libraire. Et par défaut, mais la chose n'a pas été plus explorée que ça dans l'enquête, en fait, il n'y a pas d'équivalent, en tout cas, dans le cadre de cette enquête qui est réalisée à l'intérieur des librairies ou en sortie de librairie, il n'y a pas d'équivalent en direction des bibliothèques, par exemple. Alors, quand je disais pas tous, c'est-à-dire que certains aussi témoignent de l'envie qu'on leur fiche totalement la paix dans la librairie. Hein. Pas de contact, pas de repérage, pas de questions déplacées sur le choix des livres ou sur les. Mais effectivement, la question de l'accueil est extrêmement importante et elle dépasse la relation interpersonnelle. C'est-à-dire que pour eux aussi, l'accueil, c'est la mise en espace des livres dans la librairie. C'est le côté non standardisé, voire un peu bordélique même parfois, de la mise en scène des livres, d'un choix de mobilier, de cadres qui sont accrochés sur les murs et ainsi de suite. C'est tout ça. Et sur la question de la fierté municipale, pour la Galerne, c'est très fort, effectivement. Et il y a vraiment une reconnaissance très forte. Au Havre, en plus, on est très fiers de savoir que la Galerne a un chiffre d'affaires et une clientèle beaucoup plus développée que celle de la FNAC, qui est installée à quelques encablures.
Bonjour, Philippe Lablanche, conseiller pour le livre à la lecture en Franche-Comté. Je salue mon ami Thierry au passage. Et c'est justement cette question de la vision que les élus peuvent avoir de leur librairie que je voudrais parler, pour témoigner que de plus en plus, on rencontre des élus qui prennent totalement en considération la perception que leur population a de leur centre-ville, de leur commerce de centre-ville et de la qualité du commerce en centre-ville dont la librairie fait entièrement partie à leurs yeux. Et dans les toutes récentes années, et encore cette année, j'ai rencontré des maires qui sont allés jusqu'à racheter des murs pour qu'un libraire puisse s'installer, proposer à ce libraire des tarifs de loyer extrêmement bas, voire faire pour eux des travaux, prendre en charge directement la moitié des travaux de la librairie, tout faire pour qu'un libraire puisse acheter un bâtiment historique, le restaurer, etc. Voilà, ce sont des cas qui ne sont plus rares aujourd'hui. Autant il y a quelques années, je crois qu'on peut dire les élus s'en fichaient un peu. Ils se préoccupaient plus de faire créer des grandes surfaces, effectivement, à l'extérieur des centres-villes qu'autre chose. Et ils ont compris qu'il y a quelque chose qui se noue autour de la librairie dans leur centre-ville aujourd'hui et qu'ils ont tout intérêt, s'ils veulent que leur centre-ville vive et que la population s'y sente bien, à favoriser ce type de commerce-là. Peut-être d'autres aussi, mais celui-là aussi. Alors, j'ajouterais, c'est peut-être le petit point pessimiste dans mon propos, que ça tient peut-être aussi beaucoup au renforcement de la crise de la librairie.
Oui, on peut donner entièrement d'accord avec vous, hein, on peut donner un joli exemple à proximité, c'est la librairie Les Maupassants à Aubervilliers. Hein. À l'origine, Jack Ralit, effectivement, fait en sorte que des libraires puissent s'installer, rénove donc aux frais de la municipalité la librairie et fait un effort important sur la question justement des loyers, parce que la grosse difficulté, je l'ai dit, hein, le ratio économique est très faible, hein, le taux de rentabilité extrêmement bas, sachant que les centres-villes deviennent de plus en plus chers, ça devient uniquement pour la question des loyers, parfois impensable pour les libraires de subsister dans des centres-villes qui deviennent effectivement extrêmement chers.